Il est 6h40 et nous accueillons Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à toutes et à tous.
Pour les enjeux internationaux sur France Culture, Julie, ce matin, vous vous intéressez à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Quelle version du Brexit est sur le point de l'emporter?
Oui, le Royaume-Uni quittera bien l'UE le 31 janvier prochain et entrera à cette date dans une phase de négociation avec l'Union Européenne. La Chambre des communes a donné son feu vert hier à une très large majorité après plus de 3 ans de division au sein du Parlement britannique. Les députés en ont profité pour durcir la législation sur l'immigration, plus question par exemple d'autoriser automatiquement le regroupement familial. Et c'est bien sur cet argument-là, reprendre le contrôle, retrouver sa souveraineté et notamment sur l'immigration, que l'idée même du Brexit s'est construite et a convaincu les électeurs, idée associée à une certaine dose de protectionnisme. Sauf qu'au plan économique, de protectionnisme il n'est plus question. La plupart des partisans du Brexit, notamment chez les conservateurs, ne parlent plus que de dérégulation économique, de libre-échange total et d'ouverture des frontières. Bonjour Catherine Mathieu.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste au département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Catherine Mathieu, dans le Brexit tel qu'il se dessine, jusqu'où va aller l'ouverture des frontières?
Eh bien aujourd'hui, on ne sait pas véritablement. Du côté britannique, la position est de dire on souhaite garder les frontières ouvertes, continuer à échanger librement des marchandises avec l'Union européenne et avec l'ensemble du monde, donc négocier un accord de libre-échange avec l'Union européenne et le reste du monde. On souhaite aussi garder la possibilité d'avoir des échanges de services financiers de façon complètement libre avec l'Union européenne, mais tout cela va devoir se négocier.
Et de se négocier avec l'Union européenne dans les mois qui viennent. L'idée, en fait, un des grands enjeux, c'était de rester ou pas dans l'union douanière. Ce qui a fait vraiment débat, c'est que, évidemment, ça pose la question du retour ou pas d'une frontière dure entre les deux Irlande. Donc, rester ou pas dans l'union douanière, c'est une des questions qui va se poser dans les prochaines semaines. Si le Royaume-Uni ne reste pas dans cette union, l'Union européenne va devoir mettre en place des droits de douane sur tous les produits ou pas. Qu'est-ce qui a déjà été avancé de part et d'autre sur cette question de taxation et de droits de douane?
Eh bien, ce qu'a dit l'Union européenne au Royaume-Uni, c'est que si le Royaume-Uni quitte l'union douanière, il faudra effectivement rétablir des droits de douane conformes à ceux de l'Organisation mondiale du commerce, à ceux de l'OMC. Et donc, selon les produits, il y aura des droits de douane qui seront très différents. Par exemple, des droits de douane quasiment nuls sur les produits pharmaceutiques, et puis des droits de douane de l'ordre de 8% pour les produits automobiles, et des droits de douane très élevés pouvant atteindre 50% pour certains produits agricoles, notamment les céréales et alimentaires, la viande. Et donc, en fait, il va y avoir, selon les secteurs de l'économie, des économies européennes et britanniques, des impacts très différents de ces retours de droits de douane. Du côté du Royaume-Uni, ce que l'on dit depuis le début des négociations, c'est qu'on ne souhaite pas mettre en place de droits de douane et que même si le Royaume-Uni quitte l'union douanière, le Royaume-Uni ne mettra pas de droits de douane à l'importation sur 80% des produits qui viennent de l'Union européenne. En pratique, tous les produits, sauf les produits alimentaires et agricoles, le Royaume-Uni souhaitant protéger son agriculture.
C'est
donc
peut-être là
que... Une situation,
ouais. Allez-y,
on
je vous en prie.
Une situation très asymétrique entre le Royaume-Uni qui dit « nous souhaitons continuer à échanger librement, nous sommes très favorables au libre-échange » et l'Union européenne qui dirait « ah oui, mais si vous n'êtes plus dans l'union douanière et s'il n'y a pas de négociation d'un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il y aura nécessairement le retour de droits de douane et d'une frontière, effectivement ». En Irlande. Alors, pour éviter ce retour d'une frontière en Irlande, le Royaume-Uni et l'Union européenne sont tombés d'accord pour que l'Irlande du Nord, en fait, continue à rester alignée avec l'Union européenne une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne pendant une période transitoire et que le Royaume-Uni pourra retrouver une certaine liberté sur, en particulier, la mise en place des normes et des réglementations. Alors, c'est là que tout devient sujet un peu plus à un flou, on peut le dire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, effectivement, sur le futur accord de libre-échange que souhaitent, en tout cas, nous disent aujourd'hui les Européens comme les Britanniques, qu'ils souhaitent négocier. Et tout ça va devoir être négocié, en principe, pendant les 11 mois qui vont suivre la sortie du Royaume-Uni à partir de fin janvier 2020. Jusqu'en fait, en fin décembre 2020, le Royaume-Uni restera dans le marché unique, donc il n'y aura aucun changement par rapport au système actuel, mais les négociations vont commencer à partir de février 2020 et l'Union européenne a déjà alerté depuis de nombreux mois le Royaume-Uni en disant ça va être très court cette période de transition et il faudra probablement prolonger au-delà de la fin 2020 les négociations. Et pour l'instant, Boris Johnson dit non, hors de question, nous serons complètement sortis de l'Union européenne fin 2020 et donc il faut avoir négocié avant avec l'Union européenne.
Alors pour l'instant, Catherine Mathieu, la petite dose de protectionnisme qui était promise au départ par les partisans du Brexit, elle se situe là dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ces droits de douane qui n'auraient pas cours sur 80% des produits de l'Union européenne, sauf donc ces 20% de droits de douane sur les produits agricoles notamment. Il n'y aurait pas non plus de droits de douane, avait dit le Royaume-Uni, sur les pièces détachées de l'automobile, mais 8% de droits de douane sur les automobiles entières. À chaque fois, cette question des droits de douane et de taxation, l'idée est de protéger certains secteurs et de déréguler d'autres. À chaque fois, ce sont des choix presque politiques de faire. Pourquoi, par exemple, il n'y aurait pas de douane sur des produits pharmaceutiques?
Ah, parce qu'en fait, alors les droits de douane sont fixés à des niveaux très différents par les accords de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, elle-même. Donc, de façon générale, les droits de douane sont plus élevés sur les produits agricoles et alimentaires parce que ça permet de protéger les économies émergentes, les économies qui se développent. Et pour d'autres produits, les droits de douane sont nettement moins élevés. Alors, effectivement, dans l'exemple de l'automobile, il est très intéressant parce que les Britanniques, je dirais tout de même, par rapport à ce que vous dites, ne sont pas du tout protectionnistes. Hein. Ni le gouvernement de Theresa May, ni celui de Boris Johnson, n'est protectionniste. Ils souhaitent vraiment rester très ouverts en matière d'échange de marchandises. Le véritable point, effectivement, sur lequel ils souhaitent reprendre le contrôle, c'est la question de l'immigration, des travailleurs qui viennent au Royaume-Uni, et de la souveraineté en matière de justice, donc ne plus être soumis aux réglementations de la Cour de justice européenne. Sur les échanges de marchandises, les Britanniques ont proposé effectivement de mettre des droits de douane différents, et l'exemple de l'automobile est intéressant, parce que aujourd'hui, le système de production automobile est très intégré à l'échelle de l'Union européenne et donc les pièces détachées pour fabriquer un véhicule sont produites dans de nombreux pays européens. Et donc pour que les Britanniques continuent à assembler, par exemple, le modèle emblématique de la Mini, il leur faut des pièces détachées qui viennent d'un peu partout dans l'Union européenne. Donc ils disent, nous ne mettrons pas de droits de douane, cela permettra aux constructeurs automobiles de continuer à produire, à maintenir leurs chaînes de production telles qu'elles sont aujourd'hui à l'intérieur de l'Europe et en particulier au Royaume-Uni. Et par contre, nous mettrons des droits de douane sur les achats de voitures européennes, ce qui permettra effectivement de limiter l'arrivée des voitures fabriquées en Allemagne, en France, en Espagne, dans les autres pays de l'Union européenne. Donc c'est une approche qui est très pragmatique du côté britannique et qui vise plutôt en fait à dire à l'Europe, voyez, nous sommes toujours prêts à continuer à échanger avec l'Union européenne et nous envoyons un signal justement clair dans ce sens.
Alors il y a beaucoup de Brexiteurs et surtout chez les conservateurs, hein, vous le disiez quand je parlais de protectionnisme, c'était peut-être à l'origine des discours et des débats sur le Brexit et c'est vrai que c'est plus vraiment ce qu'on entend. Beaucoup de Brexiteurs disent moins de règles, moins de normes. Les normes, l'Union européenne en impose certaines pour l'importation de produits en matière de droit du travail, de droit des consommateurs, plus récemment de respect de l'environnement. Que va faire le Royaume-Uni avec ces normes? Il était question à un moment de conserver un socle commun de normes avec l'Union européenne et c'est plus dans l'accord de retrait.
Oui, effectivement, la position du gouvernement de Theresa May était de dire nous resterons, le Royaume-Uni, au moins aligné avec les normes de l'Union européenne et nous essaierons d'ailleurs de faire mieux, y compris en matière de protection de l'environnement. C'était un des éléments importants pour Theresa May et son gouvernement. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec le gouvernement de Boris Johnson, les choses sont différentes parce que Boris Johnson souhaite véritablement négocier des accords de libre-échange avec d'autres pays hors Union européenne. Et quel est le premier pays avec lequel on voit que l'accord de libre-échange sera difficile à négocier pour le Royaume-Uni? Ce sont les États-Unis. Donald Trump s'est déclaré très favorable à un Brexit organisé par Boris Johnson et souhaite, s'il y a un accord de libre-échange discuté entre le Royaume-Uni et les États-Unis, que tous les sujets soient mis sur la table. Et ça concerne de nombreuses activités. Alors, il y a effectivement la question des normes. Très vite, on pense aux normes alimentaires qui ne sont pas du tout les mêmes aux États-Unis
que
dans l'Union. Exactement. Et donc, la population britannique, tout de même, alerte depuis un moment le gouvernement britannique en disant « Nous souhaitons garder des normes alimentaires qui soient aussi bonnes que celles que nous avons aujourd'hui à l'intérieur de l'Union européenne ». Donc, on peut souhaiter pour les Britanniques que Boris Johnson entende cette voix. Donc, il y a cette question, effectivement, des normes alimentaires. Il y aura à terme la question de divergence sur les normes industrielles. Est-ce que le Royaume-Uni continuera à garder, à aligner ces normes avec l'industrie européenne? J'ai tendance à penser que oui, s'il souhaite continuer à produire dans un système très intégré de chaînes de production. Et puis, il y a la question des services. Et la question des services en particulier, on pense aux services de la santé. Aujourd'hui, on a un service de santé britannique qui est public, auquel les Britanniques sont très attachés. Et on voit bien que du côté américain, on serait intéressé pour pouvoir progressivement vendre des médicaments, avoir accès à ce service de santé. Bref, que Boris Johnson commence à le privatiser. Et ça a été un des éléments importants de la campagne législative de décembre dernier, où des travaillistes ont alerté les Britanniques en leur disant « Attention, dans la négociation des accords de libre-échange, en particulier avec les États-Unis, la question des services de santé sera forcément partie des négociations. » Alors jusqu'ici, Boris Johnson dit « Non ». Nous protégerons le service de santé. Mais probablement, la situation sera moins facile pour Boris Johnson. Il y aura une position de force du côté américain. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a des risques de dérégulation et d'abaissement des normes au Royaume-Uni. Jusqu'ici, encore une fois, du côté du gouvernement britannique, on dit absolument pas. On va garder au moins le niveau des normes de l'Union européenne et on ira au-delà. Mais c'est un grand point d'interrogation.
Juste avant les élections du 12 décembre, des documents ont fuité, des centaines de pages de verbatim, de réunions entre des officiels britanniques et des officiels américains. Et Jeremy Corbyn s'est servi, a dit de ces documents qu'ils étaient la preuve que Boris Johnson voulait vendre le NHS à Donald Trump. On a beaucoup dit que ces documents paraissaient avoir fuité depuis la Russie, mais on n'a pas dit grand-chose de leur contenu. Est-ce qu'il y a en effet matière à s'inquiéter de ce que des accords entre Royaume-Uni et États-Unis, s'inquiéter ou en tout cas se poser la question, enfin, est-ce qu'il peut advenir que le NHS, le service public de santé auquel les Britanniques sont tellement attachés, fasse l'objet lui aussi d'une dérégulation comme vous venez de l'évoquer? Dans ces documents-là, est-ce qu'il y avait matière à le confirmer?
Indépendamment de ces documents, quand on voit un peu l'éventail des positions qui sont prises par le Parti conservateur au Royaume-Uni, on peut s'inquiéter sur la question de dérégulation de façon générale. Il y a vraiment, je pense, effectivement, une volonté de déréguler davantage l'économie britannique chez les conservateurs les plus brexiteurs. Mais sur la question du système de santé en particulier, c'est beaucoup moins net. Il y a tout, y compris chez les conservateurs, vraiment, je pense que tout le monde a compris que pour les Britanniques, c'est important de garder ce système de santé britannique public. Le gouvernement s'apprête à mettre davantage d'argent dans le système de santé britannique et tout au long de sa campagne, en particulier pour les législatives en décembre dernier, Boris Johnson a martelé le fait que le personnel du système de santé britannique était fantastique, qu'il fallait vraiment mettre davantage de moyens dans ce système de santé auquel tout le monde était très attaché. Et je pense à d'ailleurs eu, y compris dans les régions les plus défavorisées du Royaume-Uni au nord de l'Angleterre, là où traditionnellement la population vote travailliste et où Boris Johnson a réussi à faire élire des conservateurs. Parmi ces parlementaires conservateurs, on voit très bien qu'un certain nombre d'entre eux sont très attachés justement à ce système de santé britannique. Et donc, probablement, ça limitera les risques de dérégulation de ce côté-là.
Catherine Mathieu, quand on parle de la dérégulation de l'économie britannique, une expression revient souvent, elle est employée aussi par des députés britanniques, notamment le député européen Dan Annan, c'est Singapour sur Tamise. Donc là, quand on parle de Singapour sur Tamise, on parle notamment de la dérégulation des produits et des services financiers. Londres est une énorme place financière, si ce n'est la première. Singapour sur Tamise, Catherine Mathieu, Singapour est quand même un paradis fiscal. Donc qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on emploie cette expression ?
Alors, ce qu'on veut dire, c'est que bon, aujourd'hui, le Royaume-Uni, faisant partie de l'Union européenne, a accès à l'ensemble de l'Union européenne pour vendre des services financiers grâce à des passeports financiers. Une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne, soit il y aura eu un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ce qu'on appelle en fait des accords d'équivalence, qui permettront au Royaume-Uni et à l'Union européenne de continuer à échanger librement des services financiers, soit il n'y aura pas eu d'accord. Et s'il n'y a pas d'accord, effectivement, on peut craindre que le Royaume-Uni dérégule davantage les activités de la place de Londres pour conserver une activité financière très dynamique. On a vu depuis longtemps que la place financière est une place de Londres est très dynamique et tout à fait prête, je pense, à affronter le cas où il n'y aurait pas du côté de l'Union européenne d'accord d'équivalence qui serait négocié avec l'Union avec le Royaume-Uni, qui permettrait à la City de continuer à prospérer, dirons-nous. Et donc en fait, le risque effectivement, c'est que on dérégule davantage du côté de Londres, qu'on baisse l'imposition sur les activités financières du côté de Londres. Bon, la question des paradis fiscaux, elle est régulièrement évoquée. On voit bien déjà qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a un certain nombre de pays qui pourraient être qualifiés de paradis fiscaux, hein, quand on pense au Luxembourg, à l'Irlande, aux îles anglo-normandes. Il y a déjà un certain nombre de territoires sur lesquels les activités financières sont très largement déréglementées. Bon, après, si cela devenait vrai aussi pour Londres, il y aurait un effet d'échelle qui serait tout à fait différent. Et ça fait partie effectivement des préoccupations qu'auront les négociateurs européens. Essayer de limiter la possibilité de la place de Londres de se déréguler et donc peut-être réussir avec Londres à faire des accords d'équivalence qui garderaient des niveaux de régulation semblables.
Merci beaucoup Catherine Mathieu pour ces explications matinales. Je rappelle que vous êtes économiste au département analyse et prévision de l'OFCE et je vous souhaite une très bonne journée.